Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama. Aujourd'hui, Sniper Fessé et Solange. Bonjour Marine.
Bonjour Manu.
Alors Sniper, pourquoi ? Eh bien parce que on va parler de American Sniper qui sort ce mercredi 18 février. Et puis, on va parler aussi eh bien de Fessé, n'est-ce pas Marine ?
Oui, parce que vous avez été très très vilain, donc je vais vous punir en vous parlant de 50 nuances de Grey.
Et ce sera l'occasion pour nous eh bien, de jouer à un blind test, hein, parce que paraît-il qu'on... Alors, tu en parleras, hein, on ne voit pas grand-chose finalement dans 50 nuances de Grey.
Vraiment pas.
Et nous allons jouer un blind test spécial film où au contraire, eh bien, on n'hésite pas à montrer du sexe. Et puis toi, Manu, c'est toi qui vas nous parler de Solange.
Mais qu'avez-vous fait à Solange et non, qu'est-il arrivé ? Puisque je l'avais prononcé sous ce titre-là la première fois, j'en ai parlé, je confonds parfois. Et je pense que le film, c'est un giallo évidemment, et qui doit être d'ailleurs plus érotique que...
que 50
nuances de Grey.
C'est Cinérama qui débute.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Le film a déjà battu des records de recettes aux États-Unis et réalise le deuxième meilleur démarrage de l'histoire, même au pays, hein, pour un film interdit au moins de 17 ans après Matrix Reloaded. Et ce qui est très intéressant, de peu devant Very Bad Trip 2. Film où l'on retrouve également Bradley Cooper. Hein. Alors ce qu'on sait pour achever de parler gros sous, c'est qu'American Sniper a dépassé l'autre succès d'Eastwood, Grand Torino, un film qui parlait aussi de l'Amérique, la Grande Amérique. Car American Sniper n'est pas qu'un film de guerre, si effectivement on se retrouve en Irak aux côtés de Chris Kyle, un soldat héros de l'Amérique, on retourne aussi avec lui aux USA pendant ses longues permes. Alors si au départ ce film devait être tourné par David O. Russell, à qui l'on doit Les Rois du Désert ou Happiness Thérapie, ou même Spielberg hein, qui devait se charger du projet, c'est Eastwood qui récupère donc le film auquel, dit-il, il s'était intéressé avant sa production. Et ce que certains craignaient et dénoncent maintenant, c'est qu'American Sniper, récit autobiographique donc d'un sniper qui a désingué plus de 200 personnes en Irak sans rien regretter, donc ce film adapté par Eastwood, le conservateur, donne un film qui ressemble au film de propagande de l'armée. Eh bien, il n'en est rien. Chris Kyle est un Texan, promis à faire le cacou sur des taureaux pour amuser la galerie. Alors, quand il voit à la télé qu'on agresse les USA à Nairobi, au Kenya et à Dar es Salaam, en Tanzanie, en faisant sauter les ambassades, eh bien, il se rapproche de l'armée. Et le World Trade Center sera une motivation supplémentaire hein, pour s'engager dans les Marines. Alors, vu ses prédispositions pour le tir lointain, car papa texan lui a appris à tenir un fusil, hein, comme tout bon texan, on a envie de dire. Alors Chris Kyle sera donc sniper. Sa mission, protéger les convois américains et les attaques de maisons. Une tâche qu'il accomplit à merveille, puisque l'armée déclare qu'il aurait abattu 160 cibles. Alors lui, il en compte le double pour la même solde. Dans tous les cas, il se fait appeler la légende et lui se voit comme son père l'a conditionné, finalement, en chien de berger, prêt à s'interposer entre les loups et les brebis, hein, parce qu'il est aussi dans une famille finalement texane où Dieu est important. Et puis il y a cette espèce de parabole où il dit « Mon fils, tu seras donc un chien de berger ». Alors tel est le monde de ce tireur d'élite pour qui la femme qu'on le voit abattre au début du film est un démon et tous les autres Irakiens des sauvages. Le monde d'American Sniper est aussi binaire que cela. Alors ça n'est pas une remise en cause de l'intervention en Irak, évidemment. Le seul point de vue sur le conflit est américain.
Seriez-vous surpris si je vous disais que la Navy vous a attribué plus de 160 morts ?
Je te le dis pas assez, je suis très fière de toi. T'es un père génial.
Vous n'êtes pas inquiet au sujet de ce qui pourrait se passer ?
Je suis prêt à rencontrer mon créateur et à répondre de chaque tir que j'ai effectué.
Oh mon Dieu !
Je suis prêt à rentrer à la maison !
Alors, ce n'est pas un chien de berger, mais un berger. Mais bon, c'est à peu près, c'est à peu près pareil. Il s'interpose entre les loups et les brebis. Hein. Enfin, quel que soit le moyen, évidemment. American Sniper a de quoi fasciner les Américains, pays constamment en guerre hein, depuis la Seconde Guerre mondiale. On y voit un de leurs soldats, donc, son métier et donc comment il vit son retour au pays natal, où il voit bien que personne hein, ne se soucie des soldats américains en Afghanistan, en Irak ou ailleurs. Alors, s'il n'y avait que ça... Mais la vie de soldat en perme, c'est aussi une vie sentimentale. Aussi, le film s'articule autour de la relation qu'il a avec sa femme, rencontrée peu avant de partir au front. Il y a de nombreuses séquences d'ailleurs où les pistes sont brouillées entre les deux mondes. Il lui arrive fréquemment de parler à sa femme avec un téléphone satellite, tandis qu'il a en ligne de mire une cible et à la radio son QG. Donc il pourrait répondre « je t'aime » au QG, cible abattue à sa femme. Et Eastwood a bien insisté finalement là-dessus, montrant d'une part une caractéristique de notre monde d'ultra-communication et puis la porosité entre le soldat et l'homme. Alors il n'y a pas véritablement de surprise dans American Sniper, hein, et il y en aurait eu encore moins si le scénario ne s'était pas détourné quelque peu de l'autobiographie et s'il ne nous avait pas engagé dans une course contre un sniper adverse, ancien Syrien médaillé olympique, mais qui est inventé de toutes pièces. Le soldat en Irak donc fait son boulot, et aux USA, eh bien, il souffre de ne plus faire son boulot et paraît complètement à côté de la plaque, traumatisé et conditionné. Eastwood alterne donc combat et relations du soldat avec sa jeune femme, ce qui permet au réalisateur d'éviter de faire d'American Sniper une apologie de la guerre en Irak. Il y a quelques belles séquences, dont certaines très immersives. Alors déjà, nous voyons dans la lunette du sniper, voilà. Mais on se retrouve aussi dans une redoutable tempête de sable et dans une ambiance de fumigène pour couvrir un repli, autant de séquences métaphoriques qui jettent le trouble sur la guerre. Alors dans une période où Hollywood se nourrit de biopics, Eastwood s'empare de la vie d'un soldat hors du commun, sans en exagérer l'héroïsme, parce que nous ne sommes pas américains, nous voyons cela avec peut-être une certaine distance quand certains spectateurs aux États-Unis applaudissent visiblement les cartons de leurs snipers. Et ça, c'est un peu voilà, le risque. Alors, donc, ça sort ce mercredi 18 février, et puis j'en parlais au début de cette chronique, American Sniper est un démarrage très fort pour un film d'Eastwood, et on va parler eh bien, des autres films d'Eastwood qui ont fort bien marché, et notamment il y en avait un autre qui était aussi un film qu'on aurait pu penser de droite, c'est Gran Torino.
Tu deviens complètement sourde ou quoi, Fifi?
Salut, Walt.
Je suis pas un de vos amis, alors pourquoi vous vous évertuez à m'appeler Walt?
Désolé, Monsieur Kowalski.
Qu'est-ce que vous colportez aujourd'hui, padre?
Rien du tout. Je voulais prendre de vos nouvelles, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu à l'église.
Eh bien maintenant que vous avez fait votre bonne action, il ne vous reste plus qu'à continuer votre chemin.
Je voudrais qu'on discute, Monsieur Kowalski.
Dans une autre vie, mon petit.
Pourquoi? Vous avez un problème avec moi, Monsieur Kowalski?
Tentez pas le diable.
Allez-y, j'écoute.
Eh bien, je suis convaincu que vous n'êtes qu'un intello de 27 ans encore puceau qui adore tenir le crachoir à de vieilles bigotes superstitieuses en leur promettant l'éternité.
Voilà. Il y a beaucoup de films d'Eastwood qui se terminent avec des portes qui claquent. On en aura un autre exemple tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'était le deuxième succès de Clint Eastwood. Il y a un autre succès que vous allez écouter et que vous allez essayer de deviner de quel film il s'agit.
Maintenant, messieurs, il ne lui reste qu'une seule balle. Dès qu'il fera feu, vous sortez vos pistolets et vous la battez comme le chien galeux qu'il est.
Harry ?
Alors, c'est quoi ?
Je ne sais pas.
Harry ?
Là, c'est Gene Hackman qu'on entend.
C'est impitoyable.
C'est impitoyable.
Impitoyable,
voilà.
Oui.
Et il est face à Eastwood qui, normalement, n'a qu'une balle dans son fusil. Et finalement, il n'en a pas dans son fusil. Donc, on écoute un autre extrait. Alors ça, c'est un grand classique. Voilà, c'est le quatrième film, le quatrième meilleur film d'Eastwood.
Tu oublies de respirer.
Je suis désolé, mais je respire.
Chaque fois que tu subis trop de pression, tu retiens ta respiration. Il faut respirer.
Ouais. Mais à part ça, je me débrouille pas trop mal. Hein? Pour une fille, je veux dire.
J'entraîne pas les filles.
Ah oui, donc c'est facile, c'est...
Million Dollar Baby.
Voilà, tout à fait. Et on termine avec un autre succès, c'est le cinquième meilleur succès d'Eastwood aux États-Unis. C'est assez facile.
C'est un travail extrêmement physique. Je n'ai pas le temps d'entraîner quelqu'un et on ne peut pas le faire dans le temps qu'il nous reste. Alors, vous allez devoir y envoyer l'équipe d'Edalus. C'est à prendre ou à laisser.
Très bien, très bien. Toi, comme conseiller technique, pourquoi pas? Mais je n'équiperai pas une navette spatiale en centre de gériatrie. Tu es un assez bon professionnel pour savoir ça. De toute façon, la moitié de ces hommes sont sans doute morts.
L'aiguille tourne, Bob. Et je vieillis à chaque seconde.
Voilà, la porte qui claque.
Space Cowboy.
Oui, donc. C'est Space Cowboys, effectivement. Donc, nous en avons terminé avec ce petit passage sur Clint Eastwood, en espérant que ce ne soit pas son dernier film. Hein, parce que...
84 ans, quand même.
Eh oui, 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 clairement. Cinérama continue et cette fois-ci nous allons eh bien, jouer un blind test. Mais avant de jouer un blind test spécial sexe à l'écran, eh bien Marine va nous parler de 50 nuances de Grey.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Anastasia, une jeune étudiante pauvre et vierge, rencontre un richissime et mystérieux PDG. De prime abord, il semble être en tout point conforme à l'idéal du prince charmant, d'autant que Christian Grey, c'est son nom, s'intéresse particulièrement à elle. Mais il ne va pas tarder à dévoiler son vrai visage et ses fesses, et à se révéler un adepte du SM. Prise au piège, l'innocente Anastasia accepte de se laisser initier et de laisser Grey prendre de plus en plus de place dans son lit et dans sa vie. Mais les mystères de l'amour sont plus impénétrables que les orifices de notre héroïne et les rapports de domination peuvent se renverser à tout moment, d'autant que Christian Grey recèle bien des secrets.
Tout à l'heure, vous avez dit que certaines personnes vous connaissaient bien. Je sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que c'est faux. Monsieur Grey, votre rendez-vous est arrivé.
Annulez-le, merci. Nous n'avons pas terminé.
Bien, monsieur. Non, je pense que ça ira, je peux y aller, c'est bon.
Je voudrais en savoir un peu plus sur vous.
Il n'y a rien de captivant à dire à propos de moi.
Vous êtes une littéraire, c'est bien ça? Dites-moi, c'est Charlotte Brontë, Jane Austen ou Thomas Hardy qui vous a donné le goût de la littérature?
C'est Hardy.
J'aurais parié sur Jane Austen. Quels sont vos projets après l'université?
Oh, pour l'instant, je me consacre à l'examen de fin d'année.
Et ensuite?
Et ensuite, j'ai l'intention de m'installer ici, à Seattle, avec Kate.
Nous proposons d'excellents stages pour les diplômés.
Je ne crois pas que je serai à ma place ici. Regardez-moi.
Je vous regarde.
À l'heure où je vous parle, 51 degrés a déjà violemment fisté le box-office français, puisque le démarrage du film est véritablement sans précédent. Et pour cause, il s'agit de l'adaptation du non moins célèbre roman de E.L. James, déjà vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. Si cette histoire de virginale héroïne tentant de guérir un monstre de lui-même vous rappelle quelque chose, c'est normal. Il s'agit à la base d'une suite de Twilight, écrite par une bonne mère de famille américaine. Le roman appartenait à la catégorie de la sous-littérature de gare, tendance porno soft mièvre, le film, qui s'autoproclame érotique, s'avère être juste une pénible et interminable romance, à côté duquel 9 semaines et demie sembleraient un sommet d'intelligence et de pornographie. C'est à peu près aussi torride qu'un épisode de Navarro, et les deux interprètes, déjà largement handicapés par des dialogues d'une stupidité extrême, tentent de donner vie à des personnages ridicules avec l'énergie d'un vibromasseur sans pile.
Dites-moi pourquoi je suis là, Christian.
Vous êtes là parce que je ne suis pas capable de vous laisser toute seule.
Tant mieux. Pourquoi m'avoir offert ces bouquins?
J'estimais vous devoir des excuses.
Pourquoi?
Je vous ai laissé penser que je... Écoutez-moi. Je ne fais pas dans le romantisme. J'ai des goûts très... particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre.
Alors, initiez-moi.
Alors, la question est, à qui peut plaire le film? Certainement pas aux lecteurs du livre, qui trouveront que le casting est bien loin de leurs fantasmes. Pas plus aux gens venus se divertir qui s'ennuieront à mourir devant une adaptation ultra consensuelle. Et encore moins aux cinéphiles qui ricaneront devant cette mise en scène tapageuse digne d'une pub porno chic des années 2000. Cela se voudrait être un conte de fesses, c'est tout au plus une énième variation autour du mythe éculé de Pretty Woman ou une version ultra capitaliste de La Belle et la Bête. 50 nuances degrés et surtout un ramassis de clichés basés sur l'idéologie patriarcale, ce qui est quand même assez étrange hein, quand on sait que le livre donc, est l'œuvre d'une femme, que le film est fait par une femme et que le personnage central est féminin, dont l'idée principale est qu'il faut se soumettre afin de gagner un prince charmant qui nous offrira des voitures et des vêtements de princesse. Le film véhicule également une morale assez douteuse et puritaine sur les pratiques sado-masochistes, en démontrant lourdement eh bien, que les adeptes du bondage sont forcément des êtres traumatisés dans leur enfance par des pédophiles. Christian, qui ne s'appelle pas comme ça par hasard évidemment, se venge en punissant physiquement des femmes, car les femmes l'ont fait souffrir à la base. Voilà, c'est encore une fois les éternels stéréotypes chrétiens que l'on retrouve dans ce film, très mauvais et très tendancieux. Donc je finirai en citant une phrase qui n'est pas de moi. Les idéaux judéo-chrétiens ne sont pas prêts de s'écrouler tant que l'on passera à la Saint-Valentin à l'UGC. Je vous conseille donc de ne pas aller voir ce film et de ne pas lire le livre non plus, hein, qui est extrêmement mauvais aussi. Enfin vraiment, je pense que si vous voulez vous divertir, allez plutôt voir It Follows. Ça parle aussi de sexe, mais complètement d'une autre façon.
Bob l'éponge.
Ou Bob l'éponge. Il y aura moins de sexe dedans, mais bon.
Alors, bah justement, du sexe, nous allons en parler, parce que finalement, il y en a très peu, hein, quelques fessées dans 50 nuances degrés. En revanche, le cinéma, alors, pas dans ses débuts, forcément, n'a pas montré forcément la nudité. Ensuite est apparue la sexualité. Et dans ce blind test, eh bien, nous allons découvrir des films dans lesquels, eh bien, il y a beaucoup de nudité et voir eh bien, l'acte montré. On va commencer avec un extrait, alors assez facile, mais avant un petit jingle.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Et voici donc le premier extrait de ce blind test.
Eh bien, j'ai intensifié ma chasse à l'homme. Vous voyez les portes coulissantes des supermarchés qui s'ouvrent automatiquement à votre passage grâce à un détecteur de mouvement. Maintenant, comparez ces portes à ma chatte. Et ajoutez-y un détecteur de mouvement très sensible. La sensibilité de mes portes m'a donné l'occasion d'étendre mon étude de la morphologie des feuilles d'arbres à celle des organes génitaux. Je me suis embarquée dans un voyage, pour reprendre la terminologie des livres pour enfants, au pays des grosses bites des noirs. Au pays des petites bites des jaunes, etc., etc. Et surtout, j'en ai décousu avec d'innombrables bites circoncises. À ce sujet, savez-vous que si vous mettez bout à bout tous les prépuces circoncis au fil de l'histoire, vous couvrez la distance aller-retour entre la Terre et Mars ?
C'est le jour des enfants, nous sommes mercredi.
Là. C'est donc Nymphomaniac 1, oui. Le premier volet.
Voilà, qui va très loin dans certaines analogies, sachant que là on ne voit pas les images, mais on voit aussi bien des sexes à l'écran.
Beaucoup d'humour finalement et dans ce film. Hein.
Énormément. Et quand même beaucoup de sexe, hein, beaucoup plus.
Encore en heureux.
Voilà. Que dans 50 nuances degrés. Nous continuons ce blind test, cette fois-ci avec un film français.
Je suis vachement tracassé par cette histoire avec Michel.
Fais gaffe, il n'y a pas que le cul dans la vie.
Mais c'est pas que le cul avec lui.
Si vous passez pas vos nuits ensemble, c'est quoi? J'en sais quelque chose. Toi, il y a même pas deux ans, je crois que ça m'intéressait carrément pas d'avoir des rapports autres que sexuels. L'histoire d'amitié, ça me gonflait, je trouvais ça sans intérêt. Maintenant, tu peux pas savoir comme ça te fait chier de pas te voir pendant un jour. Quand je te vois arriver là-bas, j'ai le cœur qui se serre, comme quand je suis amoureux. Tu vois un peu? Et pourtant, j'ai pas du tout envie de coucher avec toi. Toi aussi, t'as envie d'être avec moi. Mmh. C'est pas pour me baiser, j'imagine.
Non.
Dormir seul, bouffer seul, tout faire tout seul, ça commence à devenir pénible. Et tu vois, je me demande si on est obligé de baiser avec quelqu'un pour dormir avec.
Enfin, si t'as envie de dormir avec quelqu'un, c'est quelque part t'as envie de lui.
Mais c'est une autre envie.
Voilà, donc eh bien, ça a été trouvé par Manu.
Donc c'est L'inconnu du lac d'Alain Guiraudy.
D'Alain Guiraudy, voilà. Donc ça, c'est une séquence, une des séquences où effectivement on ne voit pas de rapport homosexuel, mais toute l'intrigue se passe autour d'un lac où ils bronzent et puis ils font l'amour. Sachant que le réalisateur Alain Guiraudy, c'est pas la première fois qu'il mettait en scène l'homosexualité ou la sexualité. Et il avait dit au micro de Divergence, on avait diffusé ça dans un vieux cinérama, que le cinéma français manquait de couilles. Voilà, un petit gars du Tarn. Donc, on écoute un nouvel extrait. Ça, cette fois-ci, c'est un film anglo-américain.
Je disais seulement à ta belle petite copine qui est là que j'adorerais lui niquer sa jolie petite chatte toute étroite, mais bien profonde préférence, qu'elle me griffe le trop de plaisir.
Il rigole.
Et il est très drôle.
Ensuite, après l'avoir sodomisé, je lui mettrai mes couilles dans la bouche pour lui jouir en plein gueule.
Et toi qui veux jamais que je t'encule?
Arrête!
Tu pourrais l'enculer, toi?
C'est possible.
Continue, ça m'intéresse beaucoup. Ça me fait bander, continue.
Sans de ça.
Foiré! Ton fils de pute!
Voilà. Alors, un addict au sexe, ça a été trouvé par Marine.
C'était Shame.
Voilà.
Avec Michael Fassbender, ouais, le seul, l'unique.
Film de Steve McQueen. On passe à un grand classique cette fois-ci.
On me dit vicieuse. Est-ce que je vous donne l'impression de l'être ?
Pourquoi dit-on cela ?
Ce qui choque les gens, c'est que je ne connais aucune retenue en amour et que je le désire tout le temps.
C'est normal pour une femme de donner libre cours à sa sensualité.
Quel âge avez-vous ?
68 ans, hélas, et je vous envie d'être si jeune.
Je voudrais connaître votre sentiment. Franchement, est-ce que vous le trouvez séduisant ?
Je lui trouve une sorte de charme très viril et très doux.
Alors, ça vous ferait plaisir ?
C'est un plaisir de regarder un tel homme.
Si vous en avez envie, je suis d'accord pour qu'il fasse l'amour avec vous.
Alors, ça a été trouvé, même si c'est une version française, effectivement. Hein.
Ah oui, là, c'est la musique, hein, qui m'a fait trouver le film, parce que je ne l'ai jamais vu en version française, ce film. Donc, c'est l'Empire des Sens de Nagisa Oshima.
Voilà, voilà. Donc un grand classique. Là aussi, c'est un classique. Alors, on peut... Enfin, il y a une scène culte dans ce film, mais qui parle effectivement de, bah, du couple surtout, mais aussi de la sexualité.
Écoute, les femmes, elles ne... Bref, en général, elles ont une autre vision des choses.
Des millions d'années d'évolution, pour ça ? Pour ça ? Les mecs, il faut absolument qu'ils baissent tout ce qui bouge. Mais pour les femmes, pour elles, on ne pense plus que sécurité, engagement, toutes ces conneries, quoi.
C'est caricatural comme point de vue ce que tu dis, mais oui, il y a un peu de ça.
Si vous, les hommes, vous saviez ce que nous...
Je vais te dire ce que je sais. Tu es raide défoncé ce soir, t'as envie qu'on se dispute, et par-dessus le marché, tu essaies de me rendre fou de jalousie.
Mais toi, la jalousie, ce n'est pas ton genre.
Non, effectivement.
Tu n'as jamais été jaloux à cause de moi, n'est-ce pas ?
Non, c'est vrai.
Et pourquoi tu n'as jamais été jaloux à cause de moi ?
Mais je n'en sais rien, Alice ! Peut-être parce que tu es ma femme ! Peut-être parce que tu es la mère de mon enfant et que je sais que tu es incapable de me tromper.
Tu es vraiment, vraiment sûre de toi, n'est-ce pas ?
Non. Je suis sûre de toi.
Et le rire continue, c'est ce qui va tout déclencher. Ça a été trouvé, Manu ?
Donc c'est Eyes Wide Shut de Kubrick.
Ouais. Une scène extraordinaire, hein. Ils ont fumé tous les deux le pétard, ils ont cette discussion, et ensuite ils parlent du beau capitaine. Dernier extrait, alors là c'est presque pour la blague, c'est un film qui avait fait scandale, mais qui est passé, enfin pour moi c'est presque un film de série Z.
La putain de ta race enculée, mais j'y crois pas une seconde comment tu me touches.
Hey, on est dans un club de cul ici, hein ? On n'est pas à la mosquée.
Voilà, cette belle musique pour Terminus Blind Test, ça a été trouvé,
c'était
Marine.
C'était Baise-moi de Coralie Trinhi et Virginie Despentes.
Voilà. Film plutôt mal réalisé.
Ah oui, hein. Ça c'est sûr.
Voilà. Ainsi s'achève donc ce Blind Test spécial sexe à l'écran pour un mercredi.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Bon, on continue un tout petit peu quand même avec le sexe, puisqu'il y en a quand même pas mal dedans. Mais qu'avez-vous fait à Solange, un thriller italien ? Alors, professeur d'italien dans une école de jeunes filles en Angleterre, Enrico Rossini vit une idylle amoureuse avec l'une de ses élèves, Elisabeth. Lors d'une virée en barque avec Enrico, Elisabeth croit apercevoir une fille se faire assassiner par un mystérieux inconnu. Ne prenant pas au sérieux les élucubrations de cette dulcinée, Enrico devra pourtant se rendre à l'évidence. Hilda Erickson a bien été atrocement mutilée à l'endroit même où il batifolait. Alors pour parfaire le tout, il se retrouve même suspecté par la police. Marié avec une femme frigide, il redoute de dévoiler son alibi, mais c'est au tour d'Elisabeth de se sentir menacée, car le tueur rôde toujours. Alors au milieu d'une flopée de giallo exploitant plus ou moins bien un filon à la mode au début des années 70, mais qu'avez-vous fait à Solange est un marqué d'une pierre blanche, Massimo Dallamano, artisan inégal et méconnu du bis italien, a néanmoins derrière lui quelques réussites notoires, dont un très beau Émilie, l'enfant des ténèbres, et un très curieux aussi, La lame infernale. Alors développant une ambition souterraine aussi malsaine qu'ambiguë, Dallamano tente de sonder, non sans maladresse parfois, la décadence morale de jeunes nymphettes d'un lycée privé anglais, avec l'œil inquisiteur d'un puritain refoulé, rattrapé par des penchants lubriques plus que troublants. Alors cette démarche limite schizophrène est mise en exergue par un script morbide et mélancolique qui transgresse l'habituel schéma du giallo, nourri des clichés du roman photo. Alors pourtant, hein, tous les artifices habituels sont bien présents à l'écran, hein, à commencer par un tueur sadique, adepte de l'arme blanche, et puis un secret lourd de conséquences traumatiques. Alors, il ne manque pas à l'appel le lot de personnages pittoresques, l'érotisme teinté de violence graphique, hein, pénétration symbolique du vagin par une aiguille en début de film. Oui, il y a une scène assez forte. Oui. Alors, les invraisemblances coutumières et le charme suranné d'une époque qui croulait sous un kitsch assez délirant. Mais contrairement au giallo de Sergio Martino ou d'un Umberto Lenzi, Mecca vous vous fait à Solange dépasse le simple exercice de style, la belle mécanique huilée, ponctué de meurtres sanguinolents. Le film nous plonge quand même dans une dimension plus dérangeante, plus sourde, explorant les tréfonds de l'inconscient collectif. À mesure que l'enquête progresse, la nature profonde du réalisateur se dévoile, celle d'un artisan à la fois sensible et racoleur, moraliste et voyeur. Alors perturbé par son sujet, il est constamment sur la corde raide avant de basculer dans la dernière ligne droite du côté du pensum conservateur lors d'un flashback qui dénoue le fil de l'intrigue. Alors, il conclut même par un happy end assez hypocrite et bien pensant, bah, qui empêche le film d'accéder, je dirais, au statut de chef-d'œuvre. Alors, on écoute un petit extrait qui va un peu dans ce sens-là.
La police nage complètement. Et maintenant, ils me traitent comme un enfant qui joue aux gendarmes et aux voleurs.
Ils n'ont peut-être pas tout à fait tort.
C'est possible, mais je suis un enfant obstiné. Les petites savent quelque chose, j'en suis persuadé, tu vois. Elles ont 16 et 17 ans, tu comprends, chérie? Et elles sont immorales. Elles sont mêlées à des histoires sordides, orgies, drogues. C'est lamentable. Oh, excuse-moi, chérie, mais c'est la vérité, je t'assure. Je ne serais pas surpris qu'elles soient mêlées au meurtre. Mon Dieu. Elles ont même été jusqu'à renier cette pauvre vieille, Ruth Holden.
Enrico, je t'en prie.
Je suis persuadé que le lien de tous ces crimes était Ruth Holden. Seulement... pourquoi l'habit de prêtre, hein? À moins que ce ne soit un vrai prêtre qui les confesse, les absout et puis les tue après.
Calme-toi, chérie.
Alors, tant que Dallamano souffle le chaud et le froid entre pure déviance et discours prêchi-prêcha, Solange instaure un malaise réel et interroge, même si ce n'est pas toujours volontaire, notre propre regard, fasciné par la perversité de jeunes filles au visage innocent. Alors, au-delà de son caractère idéologique aussi fascinant que répulsif, Solange est un ravissement visuel. Le traitement formel est impeccable, tant d'un point de vue du montage, alerte et audacieux, surtout lors des scènes clés, que de la très belle photographie signée par Aristis Massachesi, plus connu des amateurs sous le nom de Joe D'Amato, qui signa d'ailleurs toute une série de films pornographiques. Alors le tout est magnifié par la partition émouvante d'Ennio Morricone, hein, au mieux de sa forme, et l'interprétation sans faille de Fabio Testi, comédien qu'on a vu notamment chez Zulawski dans L'importance est d'aimer, puisqu'il y tenait le rôle principal. Alors ce petit classique du cinéma bis des années 70 mérite amplement de figurer dans votre DVD tech aux côtés des plus beaux fleurons, hein, genre comme L'oiseau au plumage de cristal, Le venin de la peur ou La tarentule au ventre noir. Alors dernier petit détail, on retrouve Camille Keaton dans la peau de la pauvre Solange Beauregard. Effectivement, elle porte bien son nom. Alors, habituée aux prestations physiques, elle récidive 5 ans plus tard dans Day of the Woman, un rap and revenge excellent. Depuis, sa carrière se résume à quelques apparitions guère marquantes. Hein, dommage, elle avait l'étoffe d'une grande actrice. Mais qu'est-il arrivé à Camille, qui est de la famille de Buster Keaton, quand même? Ah. Eh oui, voilà.
On pourrait dire que la descendance de Chaplin a mieux œuvré ensuite réussi dans les arts.
Mais c'est vraiment dommage, parce que Camille Keaton est une actrice vraiment formidable qui a joué dans 4-5 films, enfin guère plus. Hein, et elle a un grand rôle, c'est dans Day of the Woman, mais tout le reste de sa filmographie, très anecdotique.
Voilà, donc c'était encore un extrait d'un dossier sur le dialogue que tu vas poursuivre dans les prochaines émissions.
Oui, avec d'autres films. Donc je pense que la semaine prochaine, je parlerai d'un film de Sergio Martino, autre artisan de qualité quand même dans le cinéma bis italien.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine, ce sera Marine qui sera aux commandes de l'émission.
Et oui.
On écoutera Jean-Jacques Hano qui parlera de son dernier film, Le Dernier Loup.
À la semaine prochaine!
À la semaine prochaine!
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.